7h35.
Sur les ondes de boulevard 102.1, Max qui est là, qui est sur le gun. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous en informer. Je vois que dans la côte sur Laurentienne, ça semble assez... Ouais, ça c'est pour l'embranchement via la capitale, donc ça semble jammer directement dans le milieu de la côte, Max, c'est ce qu'on voit?
Ça semble être un petit peu au ralenti, en effet. C'est pas un accident, là, c'est ralentissement plutôt habituel parce que Capitale Ouest est jammé aussi de plus en plus. Dans ce coin-là, Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf au rouge. En 4 Sud, ça commence tranquillement hauteur Chauveau-Ouest. Particulièrement tough présentement quand tu roules vers Shannon dans le coin de l'entrée de la base militaire. Et sinon, là, c'est vraiment dans le secteur des ponts où il y a quelques petits problèmes qui vont s'étirer pour les prochains mois parce que Henri IV, direction nord, là, à la sortie des ponts, il y a des travaux qui vont faire qu'il y aura toujours une voie de bloquer. En fin de semaine, c'était la fermeture complète. Ça, c'est terminé, c'est beau. Mais pour les prochains mois, il y aura toujours une voix de moins et ça risque de paraître.
Est-ce que Donald Trump est un pilote de brousse? On pose la question à David Chabot, qui est chroniqueur en politique internationale. Pilote de brousse, là, faut être vraiment bien ferré. Faut avoir une solide expérience. Les pilotes de ligne, c'est pas des pilotes de brousse. Les pilotes ayant leur permis privé, aller dans le secteur des montagnes, c'est assez complexe parce qu'il y a des vents à gauche, des vents à droite, des vents changeants. Là, avec Donald Trump, on ne sait plus trop de quel bord va le vent. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. L'Iran est au courant, l'Iran n'est pas au courant. Des fois, c'est Israël qui est au courant, des fois, Israël n'est pas au courant. Le détroit d'Ormuz, il est ouvert, il est fermé, mais on le ferme. Mais vous l'avez fermé aussi. Qu'est-ce qui se passe, David? Est-ce qu'il est un pilote de brousse ou il essaie juste de contrôler le dégât qu'il est en train de créer?
Tu sais, un pilote de brousse, là, ça a beau être un peu artisanal des fois, là, ça a un plan de vol pareil. Hein. Pas certain qu'il y en a un en ce moment, un plan de vol par rapport à l'Iran, parce que comme tu le dis, ça fait fou un peu, tu sais, de dire « on négocie, ça va vraiment bien ». Puis l'Iran revient la journée d'après, dit « moi, je négocie pas avec personne ». Puis là, on va aller au Pakistan, puis là, il envoie J.D. Vance qui va être là aujourd'hui ou demain, là, je me souviens plus. Puis là, finalement, l'Iran dit « je suis pas certain que je vais venir ». Fait que ça se peut que J.D. Vance, dans le fond, il va manger des baklava, je sais pas si c'est ça, au Pakistan, là, puis il va attendre que le temps passe, puis il va revenir à la maison. Donc là, c'est quoi le plan là-dedans? Il y en a pas vraiment en ce moment. On dirait que c'est une situation qu'on a créée où ce que là, Donald Trump paraît très, très mal. On fête le gain de rouvrir le détroit d'Ormuz qui était ouvert avant la guerre. On arrive, puis finalement, oups, là, c'est le Pakistan, pas le Pakistan, l'Iran qui referme. Finalement, c'est les États-Unis qui fait le blocus. En fin de semaine, ils ont attaqué un navire qui était qui est iranien.
Le 17 avril, ça, c'est vendredi, là. Le détroit d'Ormuz est complètement ouvert et prêt pour les affaires, ainsi que pour un passage total, mais le blocus naval restera pleinement en vigueur et effectif en ce qui concerne l'Iran, uniquement jusqu'à ce que notre transaction avec l'Iran soit complétée à 100%. Ce processus devrait aller très rapidement, puisque la majorité des points sont déjà négociés. Merci de votre attention à cette question. Quelques secondes plus tard, tabarouette, le prix du Brent descend 88 $. C'est une bonne nouvelle. Finalement, en quelques heures, tout ça change.
Oui, puis là, il commence à se poser des questions par rapport justement au prix du pétrole et la variation de la valeur parce que si on regarde ce matin, il était à 87 $ environ. Là, donc, sur une période de 5 jours, il a monté à 92, il a descendu à 79. Donc, ça fait quand même un swing d'une dizaine de pourcents. Il y a un représentant californien démocrate, M. Licardo, que je connais pas, là, évidemment, parce qu'il y en a un fichu paquet, mais là, il commence à s'intéresser beaucoup à la question des insider trading. Donc là, on voit que dans des situations comme ça où on dit le détroit est ouvert ou le détroit est fermé, tout de suite avant, là, il y a des gros volumes de transactions qui se placent pour ce qu'on appelle des futures au pétrole. Je sais, tu fais la grosse face parce que t'en as parlé,
Manipulation boursière, je parle de ça depuis quoi, un mois à peu près,
À peu près.
Ouais. Nostradayan. Fait que là, ça commence à se travailler. Là, lui,
un horloge brisé, ça donne l'heure juste deux fois par
an. Ah ouais, un écureuil aveugle trouve parfois des noisettes.
Exact. Mais quand je tombe dessus, je me plais à dire, ça me surprend. Un mois et demi qu'on parle de ça. C'est une bonne vieille stratégie.
Gloire à vous, grand visionnaire.
Vénérez-moi. Mais oui, il y a des inside traders, j'en suis persuadé.
Donc là, je veux pas tomber dans la grande conspiration pareil, là, mais y a-tu des gens qui ont intérêt à faire traîner ce conflit-là? Surtout que en ce moment, il n'y a pas de combat actif. La Navy américaine, là, ils ont tiré sur un bateau hier, le Tuska. Donc, pas le Tuski, mais le Tuska. Ils ont tiré sur le moteur, finalement, la chambre des machines, là, pour l'arrêter. Puis là, les Marines se sont emparés de ce bateau-là. Tu sais, quand ils ont envoyé une dizaine de milliers de Marines dans le coin, c'est pour ce genre de choses-là. Donc là, le bateau est en contrôle américain, puis ils vont faire une fouille pour voir ce qu'il y a dans ce porte-conteneur-là. Mais tu sais, c'est une situation qui est un peu tendue, mais qui n'est pas si grave. Ça coûte beaucoup moins cher que des combats actifs, parce que rappelons-nous que ça avait été estimé entre 1 et 2 milliards par jour pour mener les combats qu'ils ont menés dans le temps. Il y a de l'équipement américain aussi qui a été détruit. Là, il y a beaucoup de drones Reaper qui ont été détruits par l'Iran, une quarantaine, puis ça se produit pas tous les jours. Fait que là, tu sais, ça commence à être tannant pour les États-Unis de faire la guerre là-bas, même s'ils ont une force militaire vraiment plus grande que l'Iran. Dans tout ça, la grande carte mystère, c'est Israël. Parce que là, en ce moment, Israël fait un peu ce qu'il tente. Là, en fait, ils ont mal paru. Je sais pas si tu as vu l'image circuler, mais il y a un soldat de l'IDF qui a défait à coup de masse, dans le fond, une statue de Jésus-Christ là, qui était sur un mur à quelque part. Moi, personnellement, ça m'atteint pas. Sauf que dans un cas de guerre qui a une saveur un peu religieuse, là, d'avoir un juif qui défait une statue chrétienne dans un conflit contre l'islam...
C'est rien pour aider.
Ça aide pas bien, mais ça reste... Bon, c'est un soldat sur le terrain qui n'est pas contrôlé par Netanyahou nécessairement, mais reste que là, il y a encore des opérations militaires au Liban, au sud du Liban. On nous avait dit qu'il allait avoir une négociation à ce sujet-là. Ça négocie pas fort. Puis là, ben, tout ça irrite l'Iran. Donc là, c'est beaucoup de pièces de casse-tête. Là. C'est un peu assommant de tout couvrir ça d'un bord. Là. Mais il y a beaucoup de volets là-dedans. Puis il y a peu de portes de sortie claires parce que là, l'Iran veut pas marcher dans la même trace que les États-Unis. Puis ça l'étend de main gros.
Ouais, puis là, les États-Unis veulent pas nécessairement réattaquer l'Iran parce que ça coûte cher. Puis politiquement, c'est pas gagnant. Fait qu'on se retrouve dans une espèce de no man's land. Là.
Oui, parce que c'est quoi la solution là-dedans, tu sais? L'Iran va vouloir un genre de statu quo, peut-être même avoir des gains là-dedans, parce que, tu sais, dans cette situation-là, quand on regarde d'un point de vue purement stratégique, on se disait au départ, les États-Unis vont tout péter puis ils vont gagner en claquant les doigts, mais on se rend compte que l'Iran est beaucoup plus résiliente qu'on le pensait. Puis là, c'est eux qui ont le gros bout du bat en ce moment, parce que c'est eux autres qui décident si les combats continuent ou pas. Parce que les États-Unis émettent des conditions pour que ça arrête de se taper sa gueule. Mais l'Iran, ils s'en foutent un petit peu de se faire taper sa gueule, finalement. Donc là, ils sont comme, ben, sais-tu quoi, le nucléaire, moi, le continuer, mais regarde, je vais te laisser passer dans le détroit, mais seulement si tu me payes quelque chose. Écoute, c'est ingérable.
Ben, eux autres, tant qu'ils ont le contrôle du détroit d'Hormuz, je pense que, tu sais, est là la clé.
Ben, c'est le plus gros dommage de cette situation-là, c'est qu'on a prouvé que l'Iran avait un contrôle sur le détroit. Parce qu'avant, la menace a toujours été utilisée. Ça fait 40 ans qu'ils disent qu'ils vont faire ça. Il y a fait 40 ans qu'ils disent qu'ils vont avoir le nucléaire puis qu'ils vont fermer le détroit. Là, le nucléaire, c'est pas fait encore, mais le détroit, ça a été démontré scientifiquement.
Ils sont capables de le fermer.
C'est ça. Parce que, tu sais, ils le ferment pas physiquement avec des bateaux. Ils ont plus de Navy. C'est juste la menace d'avoir des drones puis des missiles balistiques qui tombent sur un porte-conteneur ou sur un pétrolier. Ça, c'est amplement suffisant pour dire à tout le monde, là, tape, là, peut-être pas passer par là.
Ce que tu es en train de me dire, c'est que pour régler ça, il aurait fallu anéantir une civilisation complète.
Ben, c'est vers là qu'il s'en allait. Hein? C'est peut-être pas son meilleur stand depuis hier.
Non, ouais.
Sacrifice.
Oh my God.
Mais ça, en tout cas, il y a beaucoup de questions. Okay.
Y a-t-il une porte de sortie?
Ben, la porte de sortie, ça va être des concessions. Puis il faut qu'ils trouvent une façon, je parle des États-Unis, de sortir de là en faisant des concessions à l'Iran, mais en donnant l'impression qu'ils ont gagné. Là, ils sont très forts, les États-Unis, le gouvernement Trump, de mettre les deux doigts dans les airs en disant on a gagné partout, là. Mais à toutes les semaines, à force de dire que t'as victoire, puis finalement, ça ne l'est pas, ben, c'est un peu la personne qui crie au loup. C'est fini que tu ne viendras plus, tu sais. Donc là, plus le temps passe, moins ils sont crédibles dans cette négociation-là. Puis les alliés commencent à se détacher. Là. Hier, Mark Carney a mis une vidéo d'une douzaine de minutes en ligne. Je ne sais pas si vous en avez parlé plus tôt aujourd'hui, là, mais grosso modo, son message, c'est de dire qu'il faut se découpler des États-Unis. C'est rendu une relation qui est dangereuse.
Ouais, oui, mais non. Lui, là, il a été mis en place pour gérer le gros orange l'autre bord, pour faire affaire avec lui, pour avoir la meilleure des ententes possibles entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Là, il est en train de se rendre compte que la raison pour laquelle il a été élu, puis la raison pour laquelle, bon, il avait un beau CV et tout ça, là, ben, ça va faire en sorte que les gens vont peut-être avoir une perte de confiance à son égard. Fait qu'il est en train de dire, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diversifier au niveau de l'importation puis de l'exportation. On va aller voir ce qui se passe ailleurs. Oui, mais non. Continue à faire face aux géants orange. Puis dans quelques années, Trump ne sera plus là, là. Puis il va falloir être encore un bon partenaire commercial pour les États-Unis au niveau de l'importation puis des exportations parce qu'on dépend des États-Unis. Là, son message de 14 minutes hyper contrôlé sur YouTube, là, c'est clair et net qu'il essaie de se distancer de la mission prioritaire qu'il avait au départ. Puis son maudit gouvernement majoritaire, ça va être une problématique pour les Canadiens, comme ça l'a été avec Justin Trudeau pendant des années et des années.
Bien, c'est une lecture assez sévère que tu en fais. Je ne suis pas 100% d'accord avec ce que tu dis.
On s'en reparle dans 6 mois.
Bien, peut-être. Puis encore une fois, une Australienne aurait répondu à la situation. Mais à mon sens, de se diversifier, ça aurait dû toujours être le cas. Là. Depuis Mulroney, dans le fond, qu'on a fait des accords de libre-échange.
Ça fait 200 ans que c'est notre partenaire principal. Mais puis là, il y a quelqu'un qui arrive qui est un peu. Qui a l'esprit un peu machiavélique. Puis là, on dit ah, ben là, il faut aller voir ailleurs. On va se rapprocher des Chinois? Moi, les Chinois, je les aime bien, là. Ils sont super sympathiques quand ils viennent chez nous. Je suis prêt à les accueillir, là. Mais eux autres, là-bas, là, en Chine, ça, ils me stressent un peu.
C'est beaucoup de l'Europe, présentement, qui se rapproche. Carney, là, on l'a vu avec le président finlandais cette semaine, qui a ouvert la porte, justement, à ce que le Canada entre dans l'Union européenne.
L'entreprise de Mark Carney, à 70 % presque, fait affaire aux États-Unis. C'est son entreprise à lui.
Ben, je comprends. Là, il y a cette question-là, à savoir à quel point il y a un levier là-dessus ou pas. Mais, tu sais... Je pense, le Canada ne va pas arrêter de faire affaire avec les États-Unis. Ça se peut pas.
Jamais.
Juste par la facilité et les coûts qui sont vraiment extrêmement bas. Mais je pense que dans le discours, c'est important de dire on regarde ailleurs. Parce que dans la négociation avec les États-Unis, ce qui était notre faiblesse, à mon sens, c'est qu'on avait trop besoin d'eux autres. Puis des situations comme BRP, je pense que c'est la semaine passée, qui annonçait que les tarifs avaient tellement un impact que ça allait leur coûter 500 millions de pertes de profit finalement dans la... Excuse-moi, dans l'année, puis ont perdu, je pense, une affaire comme 40 % en bourse d'un jour au lendemain. Ça, c'est des impacts réels des tarifs qu'on a ici au Canada. Fait qu'il faut donner des options à nos entreprises pour temporairement, effectivement, pouvoir continuer à faire de la business ailleurs. Tu sais, BRP, je pense pas qu'ils vont vendre beaucoup de side-by-side dans les grandes campagnes de françaises.
Exactement.
Là. Mais il faut au moins donner une opportunité de ça. Puis que de l'autre côté, quand on parle avec le secrétaire du commerce, notamment, M. Bessent, de dire, ben regarde, man, si ça fait pas avec toi, ça va faire ailleurs. C'est pas vrai, mais il faut que tu ailles quand même cette carte-là dans ta manche. Parce que si tu fais juste dire, hey, s'il te plaît, fais-moi un beau deal, ça marche plus. Avec Trump, là, au début, tout le monde était bien gentil, bien fin pour essayer d'avoir le sweet deal. Finalement, ça marche pas parce qu'une journée, il est content avec toi. Puis, tu sais, meilleur exemple, c'est l'Italie, la première ministre, que j'oublie son nom, qui était super proche de Trump. Là. Il était buddy-buddy, les deux doigts ensemble.
Là, elle vient de s'enseigner.
Puis là, elle a juste dit, hey, moi, en Iran, ça me tente pas trop. Puis là, finalement, c'est la pire conne, puis elle comprend rien, puis l'Italie s'en va dans le mur. Puis, fait que, tu sais, finalement, la relation que tu as avec Donald Trump, c'est que tu as beau le flatter dans le sens du poil, à un moment donné, ça finit que tu manques de poil à flatter pour qu'il reste content. Là.
Mais Trump s'en va. Il reste encore quelques temps, mais il s'en va après. Puis il va falloir continuer à faire affaire avec les États-Unis. Puis je pense à tous les entrepreneurs, tu sais, à la grandeur du Canada, qui regardent un Mark Carney dire « Ouais, on va peut-être regarder ce qui se passe ailleurs plutôt que de négocier un peu plus avec les Américains. » Ça doit être épouvantable au niveau des investissements. Ils doivent se dire « Attends, qu'est-ce que je fais? Je continue-tu à investir aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il va faire, Mark Carney, je vais-tu avoir des problématiques? Il ne sera pas capable de négocier avec Donald Trump. Il ne sera pas capable d'avoir une entente qui a du sens entre le Mexique, les États-Unis et le Canada.
Oui, mais c'est quoi,
Canada?
Tu te mets à plat ventre devant Trump de la façon que tu parles? Tu sais, je veux dire, moi, ce que Carney fait, honnêtement, je le comprends dans le sens que, puis c'est comme David nous expliquait, qu'il se met des atouts pour sa négociation. Ouais. S'il n'y a pas ces atouts-là, il est en position d'extrême faiblesse pour négocier face à un Donald Trump.
Je sais que j'ai pas une grande estime des politiciens, là, mais j'ai l'impression qu'il est en train de mettre la table à sa défaite contre Donald Trump dans les prochains mois lorsque l'entente sera signée. Là.
Ben, vois-tu, moi, je vois ça différemment. Tu baisses les attentes, premièrement, là, parce que là, il s'en va dans des négociations de la CEM qui vont être bien compliquées. Fait que là, tu dis, ben écoute, là, ayez pas les grosses attentes, mais moi, je travaille déjà sur d'autres choses. Fait que là, s'il y a le deal qui signe, peu importe comment il va signer, au moins on aura une entente à ce moment-là, puis il y aura eu l'air du gars qui a sauvé l'entente, tu me suis? Puis c'est ça, d'essayer de se détacher, de démontrer que tu as de la distance par rapport à ce deal-là. Tu arrives à la table de négociation avec une meilleure position.
Je te mets dans une autre optique. T'es une entreprise qui a un pied à terre au Canada puis aux États-Unis. Tu regardes comment ça se passe entre le Canada et les États-Unis. Tu déménages pas tes pénates aux États-Unis?
Bien, c'est ça que Donald Trump veut. Parce qu'évidemment, lui, ce qu'il dit, c'est je vais vous mettre des tarifs, ça va être tellement, je vais tellement vous enfantiniser que vous allez venir chez nous.
C'est facile de dire, hey, je suis Québécois, je suis Canadien, moi, tout faire. Mais en bout de ligne, ils sont 340 millions d'hommes l'autre côté, on est 40 millions ici.
Je comprends ça.
Moi, j'aime autant mieux qu'on fight. J'aime mieux qu'on combatte. J'aime mieux qu'on trouve d'autres opportunités en tant que Canadien qu'on dise, ah, ben, on peut rien faire. Si les États-Unis sont gros, on va se laisser manger à laine sur le dos.
C'est drôle, je vois même pas ça comme un combat, je vois juste comme un désintérêt. Évidemment, on va toujours continuer à faire du commerce, on est d'accord là-dessus. Sauf que de dire, regarde, je perdrai pas mon temps à essayer de négocier avec lui, c'est juste du bruit sur la ligne, mais aller voir ailleurs. Ça, c'est du désintérêt. Puis ça,
en effet.
C'est comme dans une relation de couple, à un moment donné, quand l'autre personne devient désintéressée, maudit que le temps est plate.
Parle-en à Max.
Ben, je sais pas. Max, t'as-tu...
J'ai vraiment été en couple assez longtemps pour avoir le temps de se désintéresser.
D'ailleurs, t'es en mode 8 miles ce matin. Là.
Oui, c'est ça.
Ouais,
Mom
oui.
Spaghetti. Là.
Exact.
Mon enfant de 12 ans se déguise actuellement exactement comme Max.
Ben, c'est depuis...
La calotte, la capuche à la tête.
Y a-tu le chandail du Canadien?
Non. Ben, en fait, il y en a un, mais il est un peu plus à jour que le tien. Je pense que c'est un gilet de Galchenyuk.
j'ai mon chandail d'Alex Galchenyuk.
Est-ce que les gens t'arrêtent sur la rue suite à ta chanson
Je me fais beaucoup écrire, j'ai ton toune dans la tête. Le monde n'est pas content.
Non.
Mais ils ont ma toune dans la tête.
Sais-tu ce qu'il a fait ce matin? Je vais le dire au seul italien de la station, parce que d'habitude, les Italiens, quand ils prennent quelque chose en main, sont capables d'aller jusqu'au bout. C'est le directeur de la programmation musicale. Et il a mis sa toune dans la rotation musicale. À 4h50 le matin.
Ouais. mais lendemain de victoire du Canadien. T'aimes mieux que je fasse ça à 4h50 du matin ou à 10h dans le point de max?
Tu laisses la job aux experts. T'sais, John Pedula, c'est un expert musical. Il sait ce qui est bon, il sait ce qui ne l'est pas. Là.
Oui, mais des fois, faut laisser le rationnel de côté et aller avec les émotions. Et là, le Québec au complet est en liesse. Le Canadien a pris les 20-0 dans sa série. Et les émotions disent qu'il faut faire jouer la toune du Canadien.
Ta toune.
Ben oui, c'est la seule que dans la machine. Moi, j'en aurais mis une autre, c'est la seule du Canadien que dans la machine. Et on n'a pas le but, là, qu'on le casse.
Le message est clair, hein? C'est la toune des Canadiens.
C'est la toune du Canadien.
Oui, ouais. C'est dans sa tête. David Chabot, un gros merci.
Merci, boys.
On se reparle du prochain, mon ami. 418-971-101, s'il se passe quoi que ce soit sur la route ou encore vous avez de l'information à nous transmettre, c'est par texto, Max.
Capital Ouest, c'est au rouge entre à peu près Henri Bourassa et Laurentienne. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf au ralenti. Secteur des ponts, c'est très tough. Direction nord, les deux ponts, là, c'est bien jammé. Puis je pense qu'on a un petit avant-goût. En fait, c'est pas un avant-goût, là. C'est ce qu'on va avoir dans les prochaines semaines sur Henri IV dans les deux directions. Sortie Pont-la-Porte, direction nord et direction sud, là, c'est dans le coin de la 40 et de Charest. Je vous réitère, les travaux qu'il y avait en fin de semaine, c'était farmo au complet, Henri IV, dans ce coin-là. Mais là, il va toujours y avoir une voie de fermée dans chaque direction. Et là, ce matin, là, on voit que ça cause des problèmes, que ça risque d'être ça pour l'été au complet.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation,